Bonsoir à chacun.
Nous allons partager la parole de Dieu. Et pour commencer, nous allons lire dans Hébreu, un petit verset qu'on connaît bien d'ailleurs. Hébreu chapitre 4 et le verset, la dernière partie du verset 15 et le verset 16. Hébreu chapitre 4, versets 15 et 16. Ce soir, je voudrais vous parler d'un endroit béni, dont nous parle la parole et dont nous parle en particulier ce verset, Hébreux 4, versets 15 et 16. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Je le relis. « Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. » Ce soir, je voudrais donc vous parler d'un endroit très spécial. Certains, dans la parole de Dieu, ont fait de cet endroit leur endroit de prédilection, c'est-à-dire qu'ils attachaient une importance capitale à se retrouver à cet endroit. Alors, en lisant ce verset, vous comprenez bien de quel endroit il s'agit. C'est près du trône de la grâce, mais je voudrais le préciser. Il y a dans la parole d'autres exemples qui nous montrent que des personnes se sont approchées de cet endroit béni et en sont ressorties malheureusement plus tristes ou plus malheureuses et n'ont pas profité de la bénédiction que Dieu pourtant promet. Quand on lit ce verset, vous êtes d'accord pour dire avec moi que Dieu est un Dieu de bénédiction. Le but pour lequel il nous accueille dans sa présence, c'est que nous obtenions la grâce, que nous obtenions la miséricorde et que nous soyons secourus dans nos besoins. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles, ça? Est-ce que c'est des bonnes raisons de pouvoir s'approcher de Dieu? C'est des bonnes choses. Et ce soir, nous avons besoin, peut-être, quelqu'un a besoin, je crois que si Dieu a mis cette parole sur mon cœur, c'est que plusieurs même ont besoin de se souvenir que quand on rentre dans la présence de Dieu, il y a des choses qui se passent, même si on ne les voit pas de manière physique, de manière spirituelle. Si nous avions les yeux ouverts sur les choses spirituelles, nous verrons que Dieu est en train d'agir, il est à l'œuvre, il est en train d'exaucer la prière pour ceux qui étaient là pendant ce temps de prière et qui ont fait monter leur prière vers le Seigneur. Combien sont persuadés que le Seigneur a dressé son oreille, et il a entendu nos prières, il les a recueillies même et il est en train de les accomplir, il est en train de les exaucer parce qu'il est ce Dieu qui a fait ses promesses. C'est pas moi qui vous donne des promesses, mais c'est la parole de Dieu qui nous dit que quand on s'approche de Dieu pour faire connaître notre besoin, il est ce Dieu qui est capable de nous secourir dans nos besoins, comme nous venons de le lire. Il y a cet endroit très spécial qu'on pourrait assimiler au trône de la grâce. Je l'ai appelé d'une autre manière ce soir et je voudrais qu'on puisse le retenir de cette manière-là. Ce lieu très spécial, ce lieu de bénédiction, ce lieu qui est tellement important que beaucoup ont expérimenté dans la parole, c'est quand on est au pied du Seigneur. Cette expression toute simple, au pied de Jésus. Pourquoi venir au pied du Seigneur? Il y a tellement de raisons. Et là, on en a déjà trois bonnes raisons dans ce verset. Mais avant de parler des bonnes raisons pour lesquelles on peut venir au pied du Seigneur, je voudrais souligner que dans la parole, il y a plein d'exemples de personnes qui sont venues au pied du Seigneur pour de mauvaises raisons et qui, comme je le disais, sont partis plus malheureux que ce qu'ils étaient. Par exemple, dans Marc 15, je le lis pour vous, il est question des soldats qui se sont prosternés même devant le Seigneur. Ils se sont mis au pied du Seigneur, les soldats. Mais ils se sont mis dans quelles conditions? C'était au moment où le Seigneur était couronné d'épines, au moment où ils lui ont revêtu d'un manteau pour faire dire « Oui, maintenant que tu as sauvé les autres et tu ne peux pas te sauver toi-même », et ils commençaient à se moquer de lui. Je lis ce verset, Marc 15, 19. « Les soldats lui frappaient la tête avec un roseau, crachaient sur lui et fléchissaient les genoux. Ils se prosternaient devant lui. » Vous voyez qu'ils sont retrouvés au pied du Seigneur, mais pas pour des bonnes raisons. Leur raison principale, c'était pour se moquer. Et ce soir, alors que je préparais, aujourd'hui, alors que je préparais ce message et que je pensais à ce passage en particulier, j'avais à cœur de parler peut-être à des personnes qui prient le Seigneur. Ils ne sont pas comme ces soldats, ils ne sont pas en train de se moquer de Jésus. Ils ne sont pas en train de dire des âneries sur le Seigneur comme ça peut arriver dans le monde, comme on entend des fois quand on travaille dans les milieux séculiers. J'ai travaillé dans une usine avec des paysans, des farouches paysans landais. Je peux vous dire qu'on entend de toutes sortes de choses. et combien on a besoin de la grâce du Seigneur Jésus pour qu'il puisse nous purifier nos oreilles même, avec toutes ces choses qu'on entend. Mais je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de se moquer de Dieu comme ça. Je pensais plutôt à quelqu'un à qui le Seigneur a besoin de rappeler que on ne se moque pas de Dieu, tout simplement. Ce qu'on sème, on le récolte. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'est-ce qu'il est dit ? Qu'il s'éloigne de l'iniquité. Et je pensais peut-être une personne ce soir qui est en train de rechercher cette vie de prière, d'avoir absolument ce désir de se tenir au pied du Seigneur, et puis qui, dès l'instant où elle a quitté cet endroit, le lieu secret dont parlait Jérémie tout à l'heure, dès l'instant où on quitte cet endroit, elle se met à être légère par rapport aux choses que le Seigneur lui demande de faire, par rapport aux choses que le Seigneur lui demande de regarder, par rapport aux choses que le Seigneur lui demande d'entendre. Cette personne est légère. Elle a beau se mettre au pied du Seigneur, à côté, elle fait tout l'inverse de ce que le Seigneur lui demande. Et de cette manière, elle se moque de Dieu. Et le Seigneur vous met en garde peut-être, quelqu'un ce soir. Ah, ne pas agir à la légère par rapport à ces choses. Un autre exemple, dans Matthieu 20, verset 20, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. « Oh Seigneur, permets que mes enfants ils soient l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » Une demande merveilleuse d'une maman qui voulait absolument, qui avait beaucoup d'ambition pour ses enfants. Mais Jésus, il est obligé de prendre cet exemple, à partir de cet exemple, de les enseigner et de dire « Attention, celui qui veut être le plus grand parmi vous, qu'il soit d'abord le serviteur. » Et peut-être quelqu'un veut venir au Seigneur Jésus pour être béni, mais Dieu vous appelle, il vous appelle bien sûr à être béni, mais la bénédiction passera par le service, passera par une vie de serviteur, une vie qui se remet entre les mains de Dieu en disant « Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Un autre exemple de quelqu'un qui a voulu venir devant le Seigneur et qui avait de mauvaises intentions, quelqu'un qui voulait le conseil de Dieu, mais qui ne voulait pas obéir. Est-ce que ça arrive ? Est-ce que ça arrive ? Malheureusement, ça arrive trop souvent. Il s'agit de ce jeune homme riche, en plus qui est arrivé en courant vers le Seigneur, comme Jésus se mettait en chemin. C'est Matthieu 20-20, Marc 10-17, pardon. Ça, Matthieu 20-20, c'était celui d'avant. Marc 10-17, comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut et se jetant à genoux devant lui, il lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Vous connaissez cette histoire et vous savez que cet homme qui est venu pourtant au pied du Seigneur Jésus, qui est venu avec une question tellement bonne, est reparti de ce lieu, le cœur plein de tristesse, parce que Dieu, Jésus, lui a demandé une chose et cet homme a refusé la seule chose que Jésus lui a demandé. Une chose peut servir à nous priver de la bénédiction. La chose que Dieu nous demande, et je pensais plutôt à quelqu'un qui vient au pied du Seigneur Jésus pour qu'il lui parle encore, qui est venu ce soir en disant « Seigneur, parle-moi, j'ai besoin d'une parole de ta part ». Est-ce qu'il y en a qui sont venus dans cet état d'esprit ? Moi, le premier, je suis venu comme ça. Hein. Je crois que quand je parle, le Seigneur est capable de m'instruire encore plus. Et c'est bien de venir avec cet état d'esprit. Mais peut-être quelqu'un a cet état d'esprit et le Seigneur lui a demandé, ça fait un moment qu'il lui demande toujours la même chose. Et qu'il la repousse, il remet toujours au lendemain. Il dit « Non, on verra ça plus tard, mais je veux que Dieu me parle encore. » Est-ce que ça sert à quelque chose ? Règle d'abord ce que le Seigneur te demande de régler, et ensuite il va te donner une nouvelle parole pour que tu puisses faire des progrès encore davantage. Un autre qui s'est approché de Dieu de manière égoïste, qui voulait la grâce de Dieu, ça on le trouve dans une parabole, vous savez la parabole où... Il y a un serviteur qui vient voir son maître et qui demande qu'on lui remette la dette tellement elle est énorme. Et il se jette aux pieds de ce maître et lui dit « Je t'en supplie, je vais essayer de te payer la dette, même si c'était une somme astronomique, je vais essayer de te payer. » Et le maître qui est tellement bon et plein d'amour, il lui dit « Non, c'est bon, je te remets la dette. » Et cet homme, alors qu'il voit quelqu'un qui lui donne une petite somme d'argent, eh bien, cet homme qui lui donne la somme d'argent se jette à ses pieds, il fait la même chose que lui. Et cet homme a le cœur totalement fermé. Quelqu'un qui s'approche de Dieu de manière égoïste. Dieu t'appelle à pardonner comme tu as été pardonné, par exemple. Dieu t'appelle à faire du bien comme Dieu t'a fait du bien. Dieu t'appelle à ne pas garder la grâce de Dieu qu'il t'a demandé, mais peut-être à venir à ses pieds pour trouver grâce, mais non pas pour la garder pour toi. Pour trouver grâce, pour la répandre autour de toi, cette grâce. Vous êtes d'accord ? C'est ce que le Seigneur nous demande. Il nous demande de trouver grâce, mais non pas pour que nous puissions rester bénis et renfermés sur nous-mêmes, trouver grâce pour que nous puissions faire du bien à ceux qui nous entourent, parler de Dieu à ceux qui sont perdus, etc. Pour ça, c'est des mauvaises raisons. Et la Bible nous invite à ne pas imiter l'exemple de ces mauvaises personnes. Par contre, de tirer des leçons des mauvais exemples et de nous instruire de ces choses. Mais heureusement, dans ce verset, nous voyons qu'il y a quand même des bonnes raisons. Obtenir miséricorde, trouver grâce, être secouru dans nos besoins. Et alors que je réfléchissais à ces choses, je pensais à l'exemple de ces trois femmes dont la Bible nous parle et qui sont des exemples particuliers. Pourquoi ? Parce que à chaque fois qu'elles se seront trouvées dans la présence de Jésus, elles se sont retrouvées à ses pieds. Il s'agit de Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et Lazare, vous voyez qui c'est. Il s'agit de la femme pécheresse qui a répandu du parfum sur les pieds de Jésus. Et il s'agit de Marie de Madeleine. Et certains théologiens aujourd'hui et historiens se disputent afin de répondre à cette question. Est-ce que c'est une seule et même personne ? Ce soir, je ne veux pas me disputer avec vous. Je n'ai pas envie. Et je ne veux même pas répondre à cette question. Parce que ce n'est même pas intéressant. L'intéressant, c'est peut-être intéressant de regarder hein, tout ce qui est dit, mais je vous laisse le soin de le faire. Mais l'intéressant, c'est de se dire que ces personnes, à chaque fois qu'elles se sont retrouvées dans la présence de Jésus, elles se sont retrouvées à ses pieds. Est-ce que c'est pas merveilleux ? Les seules fois où on parle d'elle dans la parole, on voit qu'elle se retrouve au pied du Seigneur Jésus. Et c'était dans diverses circonstances. Mais la femme pécheresse, ce sera la première qu'on verra. Et on va voir que justement, c'était dans une circonstance où elle était dans un banquet. C'était un pharisien qui avait fait un banquet pour Jésus en particulier. Et elle s'est retrouvée là, alors qu'elle n'était pas invitée sûrement. Elle s'est retrouvée au pied du Seigneur. Et elle a pu exprimer ce qu'elle avait dans le cœur. Deux choses, même peut-être trois choses, allez. Cette femme, elle a affirmé son amour de manière concrète et réelle. Une autre femme, c'est Marie de Béthanie. Celle-là, elle s'est approchée du Seigneur, elle est venue à ses pieds pour apprendre du divin maître. Et avec la troisième, nous verrons, c'est à quel endroit exactement ? À ses pieds, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que c'est concrètement à ses pieds ? Ça, on le verra. D'abord, parlons de cette femme pécheresse. Qui est au pied de Jésus, pourquoi faire ? Non seulement pour montrer son amour, mais pour affirmer à tous ceux qui entourent son amour. Vous avez remarqué, ça sera dans Luc chapitre 7, et pendant que vous y rendez, vous avez remarqué que c'est Jésus qui a lui-même donné un témoignage de cette femme. Dans toutes les situations dont il est question, on se rend compte que les personnes qui sont là, les gens qui sont autour, les critiquent, ou les gens qui sont autour leur reprochent quelque chose. La femme pécheresse, c'est Simon. Bon, peut-être qu'il a pas dit fort, mais il a dit tellement fort dans son cœur que Jésus l'a entendu. Même si Dieu, il connaît toutes les pensées, Jésus en particulier le savait. Mais il a été capable d'entendre ce reproche. On peut lire Luc chapitre 7, verset 36. Un pharisien pria Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière, où ça ? Au pied de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle mouilla de ses larmes. Elle les mouilla de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les embrassa et les oignit de parfums. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même, si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, répondit-il, parle. Un créancier avait deux débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leur dette. Lequel l'aimera le plus ? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se tournant vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme ? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser mais elle, depuis que je suis rentré, elle n'a point cessé de m'embrasser les pieds. Tu ne m'as point versé de l'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé, mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Ceux qui étaient à table avec lui se mirent à dire en eux-mêmes, qui est celui-ci qui pardonne même les péchés ? Mais Jésus dit à la femme, ta foi t'a sauvé, va en paix. Est-ce que ça valait le coup pour cette femme de s'approcher du Seigneur, de venir à ses pieds? Est-ce qu'elle a bien fait? Est-ce que déjà elle avait des bonnes raisons? Je crois que oui, elle voulait affirmer au Seigneur Jésus et à tous ceux qui l'entouraient combien elle avait de l'amour pour lui parce qu'il avait été capable de pardonner son péché. Et quand on voit de quelle manière cette femme, elle sort de ce lieu, Jésus lui dit « Ta foi t'a sauvée, tu as la paix de Dieu maintenant. » Il y a quelque chose qui s'est passé dans ces instants-là qui nous montre qu'elle a eu raison de s'approcher de Dieu tout simplement. Elle a eu raison de venir dans la présence de Jésus. Et là, son amour n'est pas resté quelque chose de théorique. Son amour s'est exprimé dans les faits. Et combien la Bible tout entière nous encourage. Mais moi, j'aime ce verset qui me remonte à chaque fois sur le cœur. Bien-aimé, n'aimez pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Parce que l'amour, il se prouve. L'amour, il est manifeste. Dieu, quand il aime, il prouve son amour. Comment il prouve son amour ? Ben, en envoyant son fils sur une croix. Ça, c'est la manière dont Dieu il prouve. Et c'est quelque chose qui est arrivé, qui est historique, qui est reconnu. Et Dieu prouve son amour. Et nous avons besoin, nous, d'affirmer, de venir au pied de Jésus, d'affirmer notre amour. Et peut-être pour que les autres autour de nous l'entendent et le comprennent. Mais ce que je remarque dans toute cette histoire et dans celles qui vont suivre, c'est qu'à chaque fois que les personnes parlent contre la femme, ou qu'ils disent même dans leur cœur, ou qu'ils le prononcent à haute voix, c'est le Seigneur Jésus qui répond. C'est le Seigneur Jésus qui défend. Et je voudrais encourager ce soir quelqu'un qui peut-être a connu des temps où on se moque de lui, des temps où on le critique, des temps où on reproche toutes sortes de choses, des temps où on ne le comprend pas. On va voir après que Marie, sa sœur même, ne le comprenait pas. Des fois, dans nos familles, on n'arrive pas à nous comprendre. J'aimerais vous encourager à garder silence et à regarder ce que le Seigneur va accomplir. Parce que quand vous gardez silence et quand vous vous tenez au pied du Seigneur, c'est lui qui agit, c'est lui qui fait son œuvre. Quatre choses qu'elle a fait, cette personne, elle a d'abord versé des larmes sur les pieds du Seigneur Jésus. Ça nous parle de l'émotion. Et c'est vrai, et on a raison de le faire, de dire que quand on est dans l'Église, il faut faire attention à ne pas en faire trop. Il faut que tout se fasse avec bienséance et ordre. Est-ce que c'est marqué ? C'est moi qui l'invente. Je n'invente pas, c'est dans la parole. Il faut que tout se fasse avec bienséance et ordre. Et bien sûr, on a raison de faire attention à ne pas trop avoir de débordements, mais la Bible ne nous interdit pas non plus d'avoir des sentiments, de la ferveur, de l'émotion pour le Seigneur, on est d'accord. De toute manière, comment l'amour se manifeste ? Est-ce que ça passe pas par les sentiments en tout premier ? Ceux qui ont été amoureux un jour, est-ce que vous n'avez pas senti votre cœur remplir votre corps et presque à le faire exploser au moment où vous avez posé les yeux sur la personne qui allait devenir votre époux, votre épouse ? Est-ce que ça ne s'est pas passé comme ça ? Ou vous n'avez rien senti, vous avez dit « bon, il faut se marier, alors la première qui passe, ça serait comme ça ». On est d'accord que ça ne marche pas comme ça, enfin j'espère. Ça passe par les émotions et... Des fois, on insiste tellement sur le fait qu'il faut de l'ordre et de la bienséance que même quand on est dans notre lieu personnel, dans l'endroit secret avec le Seigneur, on est là avec ce cœur tout tiède, tout appauvri, tout froid, on arrive devant le Seigneur sans aucune émotion et on le prie du bout des lèvres et on est là, on espère recevoir quelque chose. Alors on se tient à ses pieds, c'est vrai, parce qu'on prend un temps devant lui, mais on n'a pas le cœur tourner véritablement vers le Seigneur. Et au lieu d'avoir un cœur brûlant de son amour, on arrive avec un cœur fermé, un cœur endurci, un cœur imperméable. Et Dieu qui voudrait tellement nous faire du bien, il ne peut rien faire. Des fois, on a besoin même de pleurer devant le Seigneur. On a besoin de mouiller ses pieds de nos larmes. Est-ce que ce n'est pas bon des fois ? Je parle beaucoup plus quand on est dans le lieu secret. Des fois, ça arrive même quand on est ici, dans la communion fraternelle. Mais dans le lieu secret, est-ce qu'on n'a pas justement cette liberté de nous exprimer de tout notre être et que véritablement on puisse venir devant le Seigneur et dire « Seigneur, je te cherche de tout mon cœur, je veux avoir cette ferveur, je veux que rien ne fasse obstacle à mes prières. » Venons au pied du Seigneur avec cette émotion-là, avec cette vérité-là. Elle ne faisait pas semblant, cette dame, elle ne faisait pas du cinéma, elle était vraie dans la présence de Dieu. Et les prières que le Seigneur exauce, c'est les prières qui viennent d'un cœur vrai. Deuxième chose, elle essuie les pieds du Seigneur avec ses cheveux. Et ça nous parle de son cœur qui déborde d'humilité. Elle s'humilie elle-même devant le Seigneur. Est-ce que c'est glorifiant ? Est-ce que quand quelqu'un, encore une fois, gagne la Coupe du Monde, d'ailleurs on devrait le faire, est-ce que ça ne serait pas bien qu'ils essuient les pieds des pauvres avec leurs cheveux pour les ramener sur terre ?
au lieu de, des sommes astronomiques qu'il gagne. Alors, bon, je ne remets pas tout en question ce soir, je n'ai pas le temps. Ça serait intéressant quand même de le faire. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que des fois, on n'a pas besoin, pour nous-mêmes déjà, de nous humilier? Est-ce que déjà, devant le Seigneur, ce n'est pas quand même facile? Même si c'est toujours un combat, ce n'est pas quand même facile quand on regarde véritablement, quand on contemple qui est Jésus, de se dire ouais, « je veux m'humilier devant lui ». Est-ce que ce n'est pas ça d'ailleurs qui nous a touché un jour quand on a vu la sainteté de Dieu, quand on a vu notre péché, quand on s'est humilié, qu'on a dit « Seigneur, oui, je suis pécheur, je reconnais que tu es saint, mais que tu es venu mourir à la croix pour moi, pour que je puisse être justifié. Seigneur, c'est incroyable, je te bénis, je t'adore ». L'humilité. Est-ce que quand nous venons au pied du Seigneur, nous venons avec orgueil, avec notre propre justice, « Seigneur, tu as vu combien de fois je suis allé à la réunion, tu as vu combien de fois j'ai lu la Bible aujourd'hui, tu as vu combien de calendriers j'ai lu aujourd'hui ?» Où est-ce que nous venons en disant « Seigneur, je ne mérite toujours pas de rentrer dans ta présence, mais j'y rentre quand même parce que c'est une grâce et parce que je peux trouver encore grâce devant toi. Seigneur, je veux venir avec humilité, je veux venir avec repentance peut-être si il y a quelque chose qui n'allait pas et que le Seigneur m'a montré. Oui, je reviens, je m'humilie, je suis un homme pécheur, mais tu es capable tout de suite de me restaurer, tout de suite de me faire goûter à cette vie nouvelle et me renouveler dans toutes ces choses. » Une autre chose qu'elle fait, elle embrasse ses pieds. Et je pensais à cet exemple. Comment on voudrait qu'un bout de bois puisse s'enflammer si on a un grand tas de feu qui est devant nous? Alors, vous allez me dire, mais c'est Michael, c'est évident. Il suffit d'approcher le bout de bois du feu pour qu'il s'embrase. Est-ce que par lui-même, le bout de bois peut s'embraser? On est d'accord. Je ne parle pas de magie, là. Je parle de la vie de tous les jours. Hein. Est-ce que par lui-même? Non, c'est impossible. Il faut, pour qu'il puisse s'embraser, qu'il puisse être au contact du foyer. Et est-ce que cette femme n'est pas allée à l'endroit où il y avait le plus bel amour qui est en train d'embraser toute l'humanité, c'est-à-dire au pied du Seigneur Jésus? Et est-ce que ce n'est pas à cet endroit-là que nous avons besoin de venir, quand nous avons besoin que notre cœur soit embrasé de l'amour du Seigneur? Et cette femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essuie les cheveux, mais elle embrasse les pieds tellement elle veut manifester l'amour qu'il y a dans son cœur, parce qu'elle a été beaucoup aimée. Ce n'est pas un amour parce qu'elle aime la vie, c'est parce qu'elle a été beaucoup aimée. Elle a compris que Jésus était venu plein d'amour pour elle en particulier, pour lui pardonner son péché. Et elle a compris que Jésus allait mourir à la croix, enfin peut-être qu'elle n'a pas compris jusqu'à ce niveau, mais nous le comprenons aujourd'hui. Elle a compris en tout cas que Jésus était venu pour elle, pour lui faire du bien. Et sa reconnaissance est immense. Et je pensais à une autre personne qui est venue au pied du Seigneur, qui est venue avec reconnaissance. Au début, il est venu, mais il n'est pas venu au pied du Seigneur. C'était un des 10 lépreux. Il s'est approché, et Jésus leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur ». Et pendant qu'ils étaient en chemin, qu'est-ce qui se passe? Ils sont guéris. Et Luc 17, verset 15 nous dit « L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. » Il avait ce cœur de reconnaissance. C'était un Samaritain. C'était pourtant un étranger, mais c'est le seul qui est venu et qui a rendu grâce, qui a exprimé son amour, qui a dit toute sa reconnaissance. Est-ce que le Seigneur Jésus nous a pas dit dans sa parole d'être reconnaissant, d'avoir ce cœur qui dit « Seigneur, je te remercie, je te remercie pour toutes tes grâces et tes bienfaits ». Qu'est-ce qu'elle a fait finalement? Elle a oint les pieds du Seigneur. Elle a rendu au Seigneur l'honneur qu'il lui méritait. Le maître de la maison, Simon, il n'a pas oint, c'est ce qu'il faisait à l'époque, il n'a pas oint le Seigneur Jésus pour lui signifier de sa bienvenue, de l'honneur qu'il avait de le recevoir. Mais elle l'a fait, et elle l'a fait à ses pieds. Et je pensais à ces choses. Est-ce que chacun d'entre nous qui sommes sauvés, est-ce que nous n'avons pas reçu de Dieu une onction? Est-ce que la Bible ne nous dit pas l'onction que vous avez reçue? Dans 1 Jean chapitre 2, si je ne me trompe, il est dit l'onction que nous avons reçue ou que vous avez reçue. En parlant de ceux qui ont cru dans le Seigneur, chacun d'entre nous, nous avons reçu une onction. Qu'est-ce que nous en faisons? Elle est simple la question. Mais cette dame, elle avait un parfum de grand prix. Qu'est-ce qu'elle en a fait? Elle a voulu se servir de ce parfum de grand prix pour honorer le Seigneur. Et l'honneur qui est dû au Seigneur, ça nous fait penser aussi à la crainte que nous devons au Seigneur. Est-ce que l'onction que nous avons reçue, nous choisissons de craindre le Seigneur et d'obéir à ce qu'il nous demande? Que faisons-nous de l'onction du Seigneur qu'il nous a donnée? Est-ce que nous en servons pour nous, pour notre gloire ou pour sa gloire à lui?
Quatre choses qui nous apprennent comment cette femme a manifesté, a affirmé son amour autour d'elle et comment nous, nous devons affirmer notre amour. Mais cette femme, elle a trouvé le pardon des péchés, le salut, la paix, et elle a trouvé toutes ces choses, mais d'autres se sont approchés, ils ont trouvé tellement d'autres choses. Ce soir, je voudrais encourager aussi ces personnes qui ont besoin peut-être de guérison spirituelle. Dans Luc 8, verset 35, les gens allèrent voir ce qui était arrivé, ils vinrent auprès de Jésus, et ils trouvèrent l'homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses pieds, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Il s'agit de l'homme qui était possédé par toutes sortes d'esprits mauvais. Il était aux pieds du Seigneur, rempli de bon sens et vêtu. Est-ce que des fois, on n'a pas besoin de venir au pied du Seigneur pour avoir du bon sens, pour avoir de la sagesse, pour avoir de l'intelligence? Ce soir, peut-être quelqu'un a besoin de venir parce qu'il a pris, depuis plusieurs temps, il a pris des choix qui étaient mauvais les uns après les autres et ça s'est accumulé et ça l'a conduit encore plus bas que ce qu'il pensait parce qu'il n'avait pas fait preuve de bon sens. Seigneur, te dis, viens à mes pieds, tout simplement. Viens à mes pieds. Et je te renouvellerai, j'ouvrirai ton esprit, je te donnerai l'intelligence pour que tu puisses avoir les bonnes décisions. Je parlais de guérison physique. Matthieu 15, 30 nous dit « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des estropiés, beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds. Qu'est-ce qu'il fait ? Il les guérit. » La délivrance même pour quelqu'un d'autre. Vous savez qu'on peut s'approcher du Seigneur pour quelqu'un d'autre ? Est-ce que ce n'est pas merveilleux ? Quelqu'un qui nous tient à cœur, la femme syrophénicienne qui s'est approchée du Seigneur et qui a prié pour que son enfant soit délivré et qui a insisté, qui a été persévérante malgré la soi-disant réticence de Jésus. Elle a obtenu la bénédiction, elle a trouvé grâce, elle a été bénie du Seigneur. Est-ce que nous n'avons pas des personnes à cœur, peut-être dans nos familles ? Moi, j'en ai des personnes. Ceux qui étaient là à la prière ont entendu que je priais aussi pour ma famille parce que j'ai des personnes dans ma famille qui me sont chères, que je voudrais qu'ils viennent au Seigneur. Et je veux venir au pied du Seigneur. Oui, pour moi, pour ma famille, mais pour ceux aussi qui sont perdus dans ma famille. Je veux les apporter parce que le Seigneur est capable de le faire. Et enfin, il y a tellement de choses que le Seigneur voudrait faire quand nous sommes à ses pieds. Mais la deuxième chose que nous devons faire, nous, c'est de venir au pied du Seigneur Jésus pour apprendre. Luc, toujours dans Luc, chapitre 10. Et le verset 38, vous connaissez aussi cette histoire, c'est pour cela que je vais la lire rapidement. Luc, chapitre 10, verset 38. « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur ne me laisse pour servir ?» « Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Amen. Venir au pied du Seigneur pour apprendre quoi ? Ben de Marie de Béthanie, nous apprenons déjà qu'il faut apprendre à écouter. Il faut apprendre à écouter. Et écouter, ça demande de prendre du temps. Prendre du temps pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse et ne pas courir dans tous les sens en essayant de faire tout ce qu'on pourrait faire. Non, prendre du temps pour savoir ce que Dieu veut qu'on fasse. Et certaines fois, par contre, il ne faut pas tomber dans la paresse. On l'a entendu encore dimanche dernier. Certaines fois, Dieu nous dirige alors qu'on se met en action. Vous êtes d'accord ? Est-ce qu'il n'y a pas des exemples dans la parole ? Des gens se sont mis en action, ils ne savaient pas trop où il fallait aller. Et puis pendant leur cheminement, ils ont vu que Dieu a précisé les choses. Je pense au serviteur d'Abraham. Abraham a envoyé son serviteur pour choisir une femme à son fils. Et ce serviteur, il ne savait pas comment le faire. Mais il a prié, bien sûr. Mais pendant qu'il était en chemin, il était parti dans le pays, il a prié. Et Dieu a dirigé les circonstances. S'il avait attendu bien sagement à la maison, il n'y a rien qui serait arrivé. Il s'est mis en action. Mais il s'est mis en action parce qu'il avait une parole. Nous devons apprendre à écouter et à savoir ce que Dieu veut que nous fassions, tout simplement. Combien c'est important de s'arrêter et de venir au pied du Seigneur en disant, « Seigneur, oui, je veux t'écouter. Je veux entendre ce que tu as à me dire. Parle-moi. » Et pourtant, vous voyez que dans le chapitre qu'on a lu avant, le Simon a dit, « Parle, maître !» Pourtant, son cœur était fermé. Mais nous voulons dire, Seigneur, parle-moi. Je veux apprendre à t'écouter. Il y a une façon d'écouter le Seigneur. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend point garde. On a besoin d'y prendre garde. On a besoin de dire, Seigneur, je veux que tu m'apprennes à discerner. Apprendre pour quoi faire ? Apprendre pour apporter son fardeau. On n'a pas le temps ce soir de lire tous les textes, mais dans Jean chapitre 11, on voit une Marie de Béthanie qui est à nouveau dans la présence du Seigneur. Qu'est-ce qu'elle fait dans cette présence ? Elle tombe à ses pieds. Et je vous lis juste ce verset. « Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'était le moment où Lazare était mort. Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis ?»« Seigneur, lui répondit-il, viens et vois. » Apprendre à déposer son fardeau. Est-ce que c'était un temps comme celui qu'on vient de lire, où elle était assise au pied du Seigneur, elle apprenait à écouter, c'était merveilleux d'entendre la parole de Dieu. Est-ce que c'était un temps aussi bien, ou c'était un temps beaucoup plus difficile, son frère, qu'elle l'aimait tant, était mort. Et Jésus, pourtant, leur avait donné une parole, une promesse. Et d'ailleurs, souvent, quand on explique pourquoi Jésus pleurait, on dit « Ah, Jésus est plein de compassion ». C'est vrai que Jésus est plein de compassion avec celui qui souffre. Mais dans les pleurs dont il est question ici, il n'est pas question des pleurs de compassion, il est question des pleurs parce qu'il voit que les personnes à qui il a donné des promesses, elles remettent en doute, elles ne s'accrochent pas à la promesse. Et pourtant, malgré tout ça, Marie, elle a une bonne attitude parce que, même s'il y a des doutes dans son cœur, elle apporte son fardeau de doute. Et je pensais aussi à cet homme qui s'est trouvé au pied du Seigneur et qui avait son enfant qui était agité par le démon et qui était là, qui le poussait dans le feu, etc. Cet homme a dit « Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité ». Des fois, on a des doutes et il ne faut pas dire, quand on est chrétien, c'est interdit de douter. Des fois, on a des théories comme ça, mais ça ne marche pas, on est des humains. On doute, c'est normal. Par contre, on a la capacité que notre foi soit affermie et augmente beaucoup plus que le doute, et dépasse le doute et chasse même le doute. Ça se passe que au pied du Seigneur. On a besoin de venir dans cet état d'esprit. Où l'avez-vous mis ? Et le Seigneur Jésus vous dit ce soir, où avez-vous mis ce fardeau qui vous pèse ? Où l'avez-vous mis ce fardeau ? Est-ce que vous l'avez enterré au fond de votre cœur ? Il est là, mais il est caché bien profond et vous ne savez pas quoi en faire, mais il vous pèse quand même. Est-ce que vous l'avez mis sur vos épaules ? Vous le portez malgré tout alors que le Seigneur Jésus a déjà porté tous les fardeaux ? Où l'avez-vous mis ? C'est la question qu'il vous pose ce soir. Est-ce que vous ne voulez pas le mettre plutôt au pied du Seigneur ? Tout simplement. Apprendre à écouter, apprendre à porter son fardeau, à l'apporter au Seigneur, et apprendre à adorer Jésus. Dans Jean chapitre 12, nous voyons, bon, on ne va pas le lire non plus, parce que le temps nous manquerait, mais vous connaissez l'histoire, c'est la deuxième fois que Jésus reçoit du parfum, et là c'est bien précisé que c'est Marie de Béthanie, c'est pour ces raisons, parce qu'il y a tellement de similitudes avec la femme pécheresse, que certains pensent que c'est la même personne. Et Jean chapitre 12, verset 1er, nous dit que 6 jours avant la Pâque, Jésus arriva à Béthanie où était Lazare, on va le lire finalement, hein, qui avait été mort, vous l'avez compris, et qu'il avait ressuscité des morts. Là, on lui fit un souper, Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui se trouvaient à table avec lui. Marie, ayant pris une livre d'un parfum de nard pur de grand prix, oignit les pieds de Jésus, et elle lui essuya les pieds avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et juste après, nous voyons que Judas aimer une parole, eh mais on aurait pu le vendre ce parfum, on aurait pu s'en servir pour faire du bien à beaucoup de gens, et surtout à mon porte-monnaie. C'est dit entre guillemets, mais c'est comme ça. Encore des critiques qui jaillissent, encore des mauvaises paroles. Pourtant, qu'est-ce que dit le Seigneur au verset 7 ? Jésus dit, laissez-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En Jésus d'un parfum de grande valeur, elle a donné à Jésus quelque chose qui lui coûtait, quelque chose qu'elle appréciait. Elle a mis surtout Jésus en tout premier dans sa vie, mais elle a fait une autre chose. Elle a adoré le Seigneur, elle a exprimé son adoration de cette manière tant que le temps le permettait. Parce que si vous l'avez lu avec moi, c'était 6 jours avant la Pâque, mais pas n'importe quelle Pâque. C'était la Pâque où Jésus allait être crucifié. 6 jours avant. Et quand on sait ça, nous on le lit, alors on le sait, on se rend compte de l'importance que ça avait. Mais elle, elle l'ignorait. Par contre, elle avait sur le cœur d'adorer le Seigneur tant qu'elle avait le moyen de le faire. Est-ce que, frères et sœurs, est-ce que nous avons ce désir? Est-ce que nous avons ce désir de travailler tant que nous en avons le temps? Est-ce que Jésus ne revient pas bientôt? Et est-ce que Jésus ne nous appelle pas à nous mettre à l'œuvre, à travailler? Bien sûr qu'il faut se tenir à ses pieds. Bien sûr qu'il faut apprendre à l'adorer. Et comment adorons-nous le Seigneur? Seigneur, Dieu en particulier, cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Jésus vient bientôt. Alors travaillons tant que le temps le permet. Nous avons développé beaucoup d'aspects de savoir qu'est-ce qui se passe quand on vient au pied de Jésus. Il y a beaucoup de bonnes choses qui se passent quand on est sincère, quand on a le désir d'honorer Dieu, de craindre Dieu. Maintenant, où est cet endroit? Où c'est que c'est les pieds de Jésus? Parce que Jésus, il n'est plus là. Jésus, il est retourné dans le ciel. J'aimerais qu'on puisse lire deux passages dans Matthieu chapitre 28 pour répondre à cette question. Cette fois-ci, il s'agit de Marie de Madeleine. Et encore une fois, alors qu'elle rencontre le Seigneur, elle va tomber à ses pieds. Matthieu chapitre 28, le verset 8 nous dit, alors il s'agit donc de Marie de Magdala et une autre Marie, elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. Mais comme elles allaient pour l'annoncer à ses disciples, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue !» Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas, allez dire à mes frères de se rendre en Galilée, c'est là qu'ils me verront. » Jésus leur apparaît et leur donne une mission. Et je voudrais compléter ce passage pour reprendre ce que Jean a dit de ce même moment dans Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, le verset 17. Jean a précisé un peu plus l'histoire sur Marie de Magdala. Et au verset 14, Jean 20, 14, on peut même lire à partir du verset 11 pour bien comprendre. « Cependant, Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre et elle vit deux anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu » Elle répondit, « Parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. » En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu ? » Elle, pensant que c'était le jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je le prendrai. » Jésus lui dit, « Marie !» Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni, c'est-à-dire maître. » Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Amen. Dans d'autres passages, on se rend compte que quand elle a dit ça aux disciples, il y en a qui ne l'ont pas cru. Elle s'est retrouvée, on était en train de l'accuser d'inventer des sornettes, de dire des histoires, des contes. Certains même se sont moqués, peut-être. Mais elle avait vu le Seigneur, elle était à ses pieds. Et quand Jésus dit « Ne me touche pas », il y a des versions qui disent plutôt « Ne me retiens pas ». Parce qu'on voit bien que dans Matthieu, on voit qu'elles ont touché le Seigneur. Elles sont agrippées à ses pieds. Mais dans quel but? Encore une fois, pour adorer, pour dire « Seigneur Jésus, tout ce que tu nous avais dit, toutes tes promesses se sont accomplies, tu n'es pas un homme pour mentir, mais tu es le Fils de Dieu, le Seigneur des Seigneurs. » Elles se sont mis là pour se prosterner. Mais moi, je comprends leur émotion, je comprends aussi leur empressement de vouloir absolument tenir le Seigneur, et à la limite, dans ce sens, de le garder pour elles. Et Jésus, dans ce passage, on se rend compte qu'il était dans l'empressement, lui plutôt, d'aller vers son Père, dans l'empressement d'être glorifié, dans l'empressement de pouvoir enfin amener devant le Père son sang et de dire, « Seigneur, je veux que tu justifies tous les hommes qui vont croire dans mon sang. » Jésus avait cet empressement-là. Voilà pourquoi il ne s'est pas contenté de rester là. Il aurait pu très bien rester là avec Marie et recevoir l'adoration. Est-ce que c'était bien qu'il reçoive l'adoration? Mais il recevait l'adoration d'une ou de deux personnes. Mais Jésus, parce qu'il avait été obéissant jusqu'à la mort, qu'il avait accompli la volonté de son Père, il devait recevoir l'adoration de tous les hommes
qui allaient croire en lui. Et ça, ça allait être possible, pas en restant là, ça allait être possible en montant dans le ciel. Voilà pourquoi il dit, ne me touche pas, ne me retiens pas. Je ne veux pas seulement qu'une personne puisse venir à mes pieds et recevoir la bénédiction, mais je veux que tous les hommes, et je veux que l'église de Sainte-Agne aussi, tous ceux qui croient en ma parole, puissent aussi recevoir la bénédiction. Voilà pourquoi je veux retourner vers mon Père. C'est en fait tout ça qu'il veut dire le Seigneur. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, nous pouvons connaître parfaitement l'endroit où se trouvent les pieds du Seigneur. Le Seigneur, on l'a lu, c'est le premier verset qu'on a lu, il est sur son trône. Il est sur son trône et l'endroit où nous pouvons le trouver, l'endroit où nous pouvons nous mettre à ses pieds, c'est en venant de tout notre cœur et en reconnaissant dans notre cœur que le Seigneur Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Si nous approchons d'un cœur sincère, si nous approchons d'un cœur vrai, alors nous pourrons connaître toutes ces choses que ces femmes ont connues. Quels exemples admirables. Et la Bible nous invite pas à, est-ce que la Bible nous invite pas à imiter la foi et la persévérance de ceux qui héritent des promesses? Est-ce qu'on n'est pas invité à ces choses? Alors ce soir, ce message est très simple. Je vous invite. La Bible nous invite, Jésus lui-même nous invite à venir à ses pieds et à obtenir la bénédiction. Je voudrais vous relire ce premier passage. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce. Oui, le Seigneur est assis sur son trône. Donc quand je m'approche du trône de la grâce, je m'approche des pieds du Seigneur et je m'approche de tout ce qu'on a partagé ce soir. Mais si je ne le fais pas maintenant, un jour le Seigneur va changer de trône. Vous savez ces choses? Le Seigneur va changer de trône. Il ne va plus être sur le trône de la grâce. Il va être sur le trône du jugement, le grand trône blanc. Et là, qu'on le veuille ou non, on va être obligé d'être à ses pieds. Tout genou fléchira devant le Seigneur. Toute langue confessera que Jésus est le Fils de Dieu et le roi des rois. Mais ceux qui auront cru, ils seront bénis de Dieu. Ceux qui auront fermé leur cœur, ils seront sous la condamnation éternelle. Alors, tant que nous en avons le temps aujourd'hui, approchons-nous des pieds du Seigneur, approchons-nous de son trône de grâce et approchons-nous pour apprendre à l'adorer, approchons-nous pour l'apprendre à lui obéir, pour apprendre à écouter, apprendre à toutes sortes de choses, approchons-nous pour être guéris dans notre cœur, dans notre corps, dans notre âme, dans notre être tout entier, approchons-nous en tout cas du Seigneur, tant que nous en avons le temps. Ce soir, le Seigneur nous invite simplement à faire comme Marie, à nous tenir à ses pieds et à dire « Seigneur, je veux que tu me bénisses ». Et je voudrais qu'on puisse incliner nos fronts ce soir et qu'on puisse mettre ces moments véritablement entre les mains du Seigneur. Croyons que le Seigneur parle par sa parole, nous croyons que le Seigneur agit par son Saint-Esprit dans les cœurs aussi, quand nous rentrons à nous-mêmes et quand nous lui ouvrons nos cœurs. Alors nous lui demandons « Seigneur, viens dans ces moments. Nous ne voulons pas venir en nous moquant de toi. Nous ne voulons pas, Seigneur, faire semblant de quoi que ce soit. Nous voulons venir d'un cœur vrai. Seigneur, nous voulons t'honorer, nous voulons avoir la crainte de ton nom. Nous voulons aussi venir devant toi avec ferveur, pas avec une froide religiosité, Seigneur, mais avec un cœur entier et sincère devant toi. Oui, Seigneur, tu connais ceux qui se sont refroidis peut-être, mais tu es celui qui est capable de ranimer. Mais le seul moyen d'être ranimé, c'est d'être près du foyer brûlant de ton amour, Seigneur. Ce soir, permets que des hommes et des femmes puissent se rapprocher de toi, venir à tes pieds, et que leur amour soit embrasé à nouveau pour toi dans ces instants, par le Saint-Esprit, par la puissance que tu déverses, c'est par ta puissance que tu déverses dans nos cœurs, Seigneur, le Saint-Esprit, ton amour, Seigneur. Alors dans ces moments, fais-le, déverse ton amour dans les cœurs éternels. Oui, nous voulons te faire confiance. Nous croyons que tu es ce Dieu fidèle qui agit encore aujourd'hui, qui est sur le trône de grâce pour secourir tous ceux qui sont dans le besoin. Tu connais les frères et sœurs, peut-être, qui sont dans la maladie. Nous avons vu qu'à tes pieds, nous pouvons être guéris. À tes pieds, nous pouvons avoir la sagesse. À tes pieds, nous pouvons être, Seigneur, obtenir une ouverture, Seigneur, dans notre situation. Seigneur, à tes pieds, nous croyons que tu peux intervenir dans notre situation. Merci parce que tu as fait tout cela. Alors bénis, Seigneur, bénis chacun de nos cœurs dans ces instants. Apprends-nous à rester à tes pieds et à t'écouter pour faire ce que tu nous demandes. Alléluia. Merci, Seigneur.